Casino.
Écoutez.
Mamma mia!
Le ventre sent le petit, il dit oh, est-ce que je l'ai oublié?
On est des antiquités, hein, nous les adultes.
Ce malin.
La Smala.
Quand on entre dans l'école et qu'on voit les enfants, ils ont les yeux grands comme des 5 francs.
Laissez refroidir, démouler.
Je suis passée par tous les états d'âme. La tristesse, la colère, la haine. Pas le dégoût, non, ça pas. Par la déception. Je crois que je suis passée par toutes les émotions. Ouais. Parce qu'on les croit. Quand ils vous disent « je veux arrêter », ils sont sincères et on les croit. Et nous, on pense que c'est facile d'arrêter, parce qu'on ne connaît pas. Bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une rechute, en plus on ne vous le dit pas tout de suite, donc il y a d'abord le mensonge, après on vous le dit ou vous le découvrez, donc il y a tout un processus qui fait que on nage un peu dans le mensonge. Moi, j'associe le mensonge au problème de dépendance en général. Hein. C'est-à-dire, il y a le manque de confiance, donc automatiquement, à partir de là, il y a la colère, il y a la déception, il y a la haine, il y a même l'envie, peut-être, de se dire, mais il faut qu'elle monte là-haut, hein. Elle va être mieux là-haut. Elle va être mieux, puis nous aussi, on va être mieux. Puis ça fait mal de penser que nous, on peut être mieux, parce qu'il faut qu'elle monte là-haut. Donc il y a aussi tout ce problème de culpabilité, d'avoir un sentiment de se dire faut que ça s'arrête. Hein.
Je crois qu'avant nos rencontres, je parlais de déni. Du déni de la toxicomanie de mon frère jusqu'à ce qu'il me dise ou nous dise « je suis toxicomane et je veux arrêter ». Mais ce mot résonne différemment quand je le dis maintenant. Comme si j'avais une autre conscience de ce que ça voulait dire. Entre autres d'avoir vécu l'angoisse, la violence, la déception, la colère, ou je ne sais pas quoi encore. Tout ça sans vraiment savoir ou pouvoir me dire ce qui se passait. Avant, je remerciais mon frère de nous avoir préservés. Maintenant, je dirais que le secret, c'est aussi nous qui l'avons maintenu.
La voix de deux femmes qui nous en disent déjà beaucoup sur le sujet qu'on va aborder jusqu'à 11h avec vous, Martine Galland, et vos témoins. La toxicomanie, donc on l'a dit à travers le regard des frères et des sœurs avec différents protagonistes dont...
Alors Magali Feller qu'on vient d'entendre lire un court texte et Yves Mélan qui ont recueilli ces témoignages sur le sujet et créé une pièce sonore dont on va entendre beaucoup d'extraits.
D'accord, vous vous êtes basé, vous allez l'entendre, donc sur ce travail pour nous proposer une heure sur le sujet. Comment est-ce qu'ils ont créé cette pièce sonore?
En fait, c'est un travail qui est né dans le cadre des terrasses du Troc à Genève. C'est une manifestation qui se passe tout l'été sur la couverture des voies ferrées à Saint-Jean. En fait, on y met une scène, une buvette, des chaises longues. Et puis, c'est axé sur la rencontre et la collaboration entre des habitants du quartier et des artistes. Donc, Magali Feller a choisi ce sujet parce que les voies ferrées sont parfois la scène de la toxicomanie et parce qu'aussi peut-être c'était le moment pour elle d'évoquer son histoire qui a longtemps été laissée dans le silence. Et c'est Laura Gioric-Costas qui organise les terrasses du Troc qui lui a proposé de collaborer avec Yves Mélan qui lui est musicien, photographe et qui réalise des pièces sonores.
Alors quand on dit pièces sonores, c'est vrai qu'on a l'habitude, vous auditeurs de radio, d'entendre des documentaires ou des reportages qui sont réalisés, etc. Une pièce sonore, c'est un autre univers, il faut bien le dire.
Alors voilà, lui il a travaillé avec les mots des témoignages, avec leur son, avec leur silence, et c'est pas journalistique, c'est pas préventif en fait. La force du projet, c'est que Magali Feller a donné la parole aussi bien à des personnes touchées par la toxicomanie d'un frère ou d'une sœur, qu'à des toxicomanes eux-mêmes, et qu'elle l'a prise aussi la parole avec de courts textes, et le résultat, c'est cette pièce qui dure un peu plus d'une heure, qu'on peut entendre aujourd'hui sur Internet, dans son intégralité.
Alors le titre en est Jardin public, jardin privé. Donc ça a été diffusé dans le quartier Saint-Jean, c'est aujourd'hui diffusé sur le net.
Voilà, durant tout l'été, en fait, le mardi soir, les gens pouvaient se réunir dans le kiosque à Saint-Jean pour écouter, pour échanger après. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être confronté à la toxicomanie pour que les mots qu'on va entendre fassent écho.
Oui, ça fait écho aussi à nos relations avec les frères et les sœurs, avec l'amour, avec tous ces problèmes de dépendance et de relations. C'est toute la thématique que va aborder Magali Feller. Claire qui fait l'objet de cette SMALA jusqu'à 11h.
Bon, je ne sais pas si j'avais envie de faire quelque chose sur cette thématique. Il se trouve que, bon, moi j'aime bien écrire et puis à un certain moment je m'étais dit, bon, mon frère est décédé, il est mort d'une overdose. Et j'ai l'impression que chaque fois que je pense à lui, c'est lié à la drogue. C'est quand je vois des toxicomanes dans la rue ou qu'il y a des situations qui me rappellent ça. Puis je me disais, mais j'ai pas de souvenir de lui. Ou quand j'ai des souvenirs de lui, c'est pas lui. Enfin, ou c'est lui toxicomane, mais c'est pas lui qui il était ou comme ça. Et puis j'avais envie d'aller au-delà de ça. Puis d'une certaine manière, j'ai commencé à écrire chaque fois que je pensais à lui. Et en fait aussi, entre frères et sœurs, ce qu'il y a, c'est que quelque part, on part avec la même base. On a le même environnement, les mêmes parents, un peu la même histoire. Et finalement, on en fait des choses complètement différentes. Et ça, c'est flagrant, évidemment, quand il y a un frère et une sœur, ou deux frères ou deux sœurs, dont l'un est entré dans la toxicomanie et l'autre pas.
J'avais pas envie de vraiment travailler sur la toxicomanie. Et comme Magali a vécu une expérience par rapport à son frère, on est tombé d'accord qu'on allait travailler à partir de l'histoire de Magali. L'idée la plus complexe, c'était de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs qui accepteraient de parler de ça. Parce qu'en plus, ils parlent peu de ça. Et ce qui était très important, c'était que Magali les rencontrait une première fois pour, moi ce que j'appelle, ouvrir un peu le robinet. Des personnes n'ont peut-être pas parlé de toutes ces émotions pendant des années. Et d'un seul coup, avec Magali, ce lien se faisait.
J'avais envie de faire parler la famille et évidemment plus précisément les frères et les sœurs parce que je pense que on pense plus aux parents. Enfin, les gens me disaient « ouais, ça doit être dur pour tes parents » et ne se représentaient pas forcément qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Histoire 1. Le téléphone sonne. Je commence par le téléphone qui sonne. C'est une fin plus qu'un début. Il faut juste pouvoir commencer quelque part.
On a dû lui donner de l'argent pour qu'elle paye. Il y a un mec qui est venu à la maison. On a dû lui filer des sous pour lui payer sa cam. C'est horrible, ça. Mais ça, moi, on m'en fout complètement. Sur le moment, c'est dur parce qu'on est dans la peur. On est dans la peur que si on ne donne pas cet argent, il lui arrive quelque chose. Ça, c'est pas le plus dur. De donner 500 balles ou 1000 balles à un type pour régler les comptes. Par contre, de voir qu'elle a ici, qu'elle est marquée, qu'elle est maigre. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je me dis, je vois déjà sa souffrance. Une maman qui s'enferme dans un univers parce qu'elle n'arrive pas à faire autrement et qu'elle ne vit plus. Elle est vivante, mais elle ne vit plus. Elle est morte, mais elle est vivante. C'est de la souffrance, parce que c'est des êtres qu'on aime. Et puis là-dedans, moi, qui suis un peu l'intermédiaire avec protéger un peu une maman, protéger une sœur, me protéger moi-même, puis alors là, ça c'est déjà une grosse douleur, je ne peux pas l'exprimer autrement.
Où j'ai dit non, c'est qu'il a commencé à se piquer à la cocaïne et puis que là, il devenait vraiment violent. Parce que non seulement il y avait la cocaïne, il y avait l'alcool, il y avait...
Le manque. Des moments où on a eu peur, ouais.
Et puis là, c'était plus possible, quoi. C'était mis au fond d'abord.
Déjà, il était fort physiquement, mais là, on a eu peur. Il y a des moments où on a eu peur. Et là, oui, t'as de la colère, évidemment.
Trois fois, moi, je me suis retrouvée dans le caca pour qu'il s'en sorte. Après, c'était fini. Je lui ai plus jamais redonné un centime.
Une fois, il a dépassé les limites. Et puis là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de colère.
Je pouvais pas
vivre
dans la crainte, quoi. C'était pas possible.
Quand j'avais 20 ans, j'étais quand même plus jeune que maintenant.
Donc là, j'ai dit stop.
On est beaucoup dans la colère. Parce qu'en fait, ça nous fait tellement mal.
Et puis un mois
que
après,
c'est un sentiment, tu vois. C'est
tuer quelqu'un.
C'est comme ça qu'on exprime notre souffrance aussi, quelque part. Tu vois.
Ça servait. Je trouvais qu'il y en avait déjà assez qui avaient coulé, sans qu'il y en ait encore plus qui coule.
Et entre la colère et la tristesse, c'est Tout est lié. Bah,
disons que quand on a des enfants, faut quand même qu'on soit bien.
Parce qu'il y a un sentiment d'injustice, tu vois. Il y a plein de choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a plein de choses qui te dépassent.
Et je crois que ça a été le plus dur, ça.
Puis tu ne peux pas avoir une lecture des choses quand tu les vis.
De vraiment dire non et...
Parce que tu es dedans, tu fais partie de l'histoire. Lui, il portait déjà une souffrance. Nous, on n'avait pas le droit à l'erreur, quelque part.
Et puis, j'ai décidé que maintenant, je faisais ce que j'avais envie.
Tu vois, lui, il avait déjà fait tellement de conneries que nous, c'était fini, quoi. On n'avait droit à aucune connerie.
J'avais envie d'abord entendre les frères et les sœurs de toxicomanes parce que voilà, j'avais envie, moi, de parler un peu à travers eux, mais aussi d'entendre les toxicomanes parler de leurs frères et de leurs sœurs. Voilà, j'avais envie d'entendre ces deux paroles, mais je trouvais que c'était aussi une bonne manière d'entrer dans la problématique, aussi pour les gens de l'extérieur, parce que quand on parle de frères et de sœurs, beaucoup de gens ont des frères et des sœurs, et où on ne va pas éloigner cette problématique, puis se dire, voilà, c'est quelque chose qu'on regarde à la télé ou qu'on voit dans la rue. Non, on y entre par quelque chose qui nous est très proche.
En partant de l'idée de la dépendance, de l'addiction, et des cheminements qu'il y a avec ces dépendances et ces addictions, au fond, on est toujours dans ces problèmes d'amour. Tout ça, c'est de l'amour. Hein, des déceptions, des attentes, de ça. Et là, on commençait à parler de tout, des liens entre nous, de quelle façon on se voit l'un et l'autre, entre frères et sœurs, ou entre amoureux, ou entre enfants et parents. Ça me passionne, parce que tout le monde peut s'y retrouver.
On se retrouve dans quelques secondes, juste après ces nouvelles du trafic.
Infotrafic, RSR. Un accident perturbe le trafic dans les deux directions dans la localité de Chèbre. Faites preuve de prudence si vous circulez dans la région.
La Smala.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you. There ain't no one for to give you no pain. La 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 la. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the human.
Magali Feller, Yves Mélan, comment se sont passées ces rencontres ici dans cette petite cuisine à Carouge ?
Pour moi, ça fait partie du résultat, le fait que j'ai passé du temps avec eux et que j'ai discuté avec eux avant et que j'ai aussi raconté mon histoire. Donc, c'était marrant aussi dans les interviews. À certains moments, ils se sont adressés à moi. Mais ouais, c'est pas comme dans ton histoire. Enfin, toi, t'as vécu ça comme ça. Moi, j'ai vécu ça différemment. Donc, il y avait ce dialogue-là. Et je pensais à un moment précis que moi, j'ai trouvé assez fort. C'était une jeune femme toxicomane ou ex-toxicomane. Elle commençait à dire ce que tous ont dit, hein, à la fois les frères et sœurs de toxicomanes, mais aussi les deux personnes qui sont dans cette problématique qu'on avait interviewée avant. C'est les toxicomanes sont des personnes très sensibles et puis qui ont des difficultés à vivre dans ce monde et tout. Puis moi, j'en avais marre d'entendre ça. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les autres qui le sont pas dans la famille, c'est des brutes épaisses qui supportent le monde comme il est. À la limite, je trouvais ça insultant, quoi. Et bon, en même temps, je comprends, j'entends aussi ce qui m'était dit. Et là, j'ai réagi et j'ai trouvé super chouette parce que j'y suis allée vraiment provo en disant « Ouais, mais bon, moi, je suis... c'est ça, je suis une insensible, dure et tout. Pour moi, tout se passe bien. » Puis je disais « Ben non, c'est pas ça. » Et en fait, finalement, toi, t'es dans une institution ici, t'es pris en charge, tout le monde s'occupe de toi, t'as de la chance, quoi. » Elle a réagi parce qu'elle a compris que j'étais aussi dans une... C'est pas du second degré, mais c'est vrai ce que je dis, je le pense. Puis en même temps, je suis capable de me mettre à sa place puis de me dire non, elle n'a pas de la chance d'être ici. Et là, j'ai trouvé que, voilà, pour moi, c'était un moment assez fort.
Je peux comprendre par rapport à ton frère, etc. Je pense que tu as dû aussi cette chance. Moi, je pense qu'à la place de mon frère et ma soeur... À un moment donné, quand je dis qu'ils en ont plein le cul et qu'ils ont des règles de misère, c'est qu'ils en ont marre de toujours que ça, la petite Amandine, elle va pas bien, nanana, et ça, je comprends, mais amplement, quoi. Puis qu'ils en ont marre de qu'on se fasse toujours du souci, et puis que ça ne m'empêche pas de rechuter, qu'ils ont l'impression que même si on porte l'attention à moi, moi, je fais pas d'effort, et puis qu'ils en ont plein le cul, mais ça, moi, je comprends tout à fait, je serais certainement à leur place, je penserais la même chose, quoi. Après, je pense pas qu'ils sont, ils ont pas envie d'être à ma place concrètement ici, quoi. Mais je peux comprendre que toi, en ayant vécu ça avec ton frère, t'es un côté où tu te dis putain, puis moi aussi j'exige, j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Moi aussi des fois je vais pas bien, puis c'est pas parce que je me drogue pas que j'ai pas le droit de pas aller bien, quoi, tu vois. Et c'est là-dessus aussi que c'est difficile, je pense, pour les autres, quoi, aussi. Il y a aussi ça, quoi.
Ok, ma vie n'est pas palpitante, mais à mon rythme, j'en fais quelque chose. Et comme ça a été dit à la météo aujourd'hui, l'impression de beau temps domine. Je m'entends me justifier, comme je me justifiais souvent parce que je pensais que mon frère méprisait ma vie.
Parce que moi, c'est vrai que j'ai le rôle de celle qui va pas bien, parce qu'on me l'a... je suis dans ce rôle-là, puis que c'est... Voilà. Mais tu vois, mon frère, des fois, il va pas bien non plus, et tout ça. Puis c'est vrai qu'on oublie de leur demander comment ça va, si c'est OK le moral et tout. Puis c'est vrai que c'est super pénible, parce que on vit tous des trucs compliqués, et puis c'est pas parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus, entre guillemets, malade que quelqu'un d'autre, que l'autre souffre pas. Puis c'est vrai que c'est injustice qui doit faire mal, je pense, si je me mets de votre côté, quoi.
Dans le contexte de l'époque, je t'aurais répondu « mais faut tout faire, tu dois la sauver, tu dois l'amener à l'institution, si elle ne sait pas où dormir, tu dois lui ouvrir la porte, si tu dois l'aider, mais qu'est-ce que tu fais là si tu ne l'aides pas ?» Aujourd'hui, avec une quinzaine d'années de recul, je dirais « faut l'aimer, faut l'accompagner, mais tu ne peux pas faire à sa place les choses ». Et je pense que de les faire à sa place, tu ne lui rends pas service, parce qu'on est, c'est peut-être ce qu'on avait évoqué, on est dans la déresponsabilisation. Mais ça, c'est faut aussi l'apprendre. Hein. Parce que nous, on apprend à leur contact. Hein. Moi, je crois que voilà, de l'amour, de l'accompagnement, de l'écoute, mais faire à leur place, je pense qu'on a tout faux. Ouais. Mais bon, sur le moment, moi, j'aurais tout fait à sa place. Je lui aurais trouvé l'adresse pour, parce que je ne me serais pas dit, elle peut la trouver toute seule. On trouve l'adresse, on trouve le lieu. Donc c'est vrai, on déresponsabilise complètement la personne. Hein. Puis en même temps, on a bonne conscience, parce qu'on a trouvé l'adresse. Alors c'est magnifique. Puis parce qu'on a trouvé l'adresse, elle va s'en sortir. Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Entre nos attentes, nos projections, cet amour immense, parce qu'au nom de l'amour, mais qu'est-ce qu'on fait comme connerie? Alors je préfère quand même que ce soit fait au nom de l'amour. On t'aime, on fait tout pour toi. Pour elle, ça lui met la barre très haute. J'étouffe, comment je peux... Ouais, trop d'attente.
Puis là, j'ai commencé ces entretiens familiaux, justement. Donc là, j'ai plus ou moins commencé avec ma mère et mon frère. Puis les prochains, c'est ma sœur et mon père, en fait. Ouais. Mais c'est ceux que j'appréhende le plus, en fait, et que je redoute le plus. Quoi, parce que... Puis que je sais, eux, ils ont aussi de la peine à parler, etc. Donc ça aussi se mettra nu de leur côté. Donc ça va être intense et difficile, quoi. Mais il faudra le faire, quoi. Je sais que je peux pas m'économiser ce travail, quoi, donc...
J'ai été frappée en interviewant les personnes toxicomanes. Voilà, je ne sais pas comment je dois dire, parce qu'eux parlaient avec beaucoup de pudeur de leurs problématiques ou leurs problèmes de toxicomanie. C'est vrai que pour moi, j'aurais tendance à dire voilà, des toxicomanes ou quand je sors de la gare, que je passe à côté du cinéma Rialto à Genève, voilà, là il y a les toxicos, et que finalement on les voit comme des toxicomanes et c'est leur seule identité. Finalement, ils sont plus que des toxicomanes. C'était aussi ça le rapport que j'avais avec mon frère, c'est que finalement je pensais à lui que quand j'étais confrontée à la toxicomanie, et je me disais, mais mon frère, c'était pas qu'un toxicomane, c'était aussi mon frère, tout ce qu'on avait vécu ensemble, le rapport qu'on avait. Voilà, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup, enfin, les disputes, enfin, tout ce qui fait un rapport frère-sœur, et puis aussi sa personnalité, sa sensibilité et tout ça. Et c'est ça que j'avais envie de faire ressortir aussi à travers ce travail. Et puis j'espère que dans ces interviews, eh bien, on a vu des personnes. Il y a 6 personnes, il n'y a pas les uns et les autres avec une étiquette collée sur leur front.
Yves Mélan, vous vous êtes retrouvée avec une quinzaine d'heures de témoignages. Comment est-ce que vous avez travaillé à partir de là pour faire une pièce qui dure une heure dans son intégralité et dont on entend de tout petits bouts?
J'ai déjà traîné des jours, presque des semaines, à essayer plein de versions différentes. Et c'est en montant que, malgré moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de raconter une histoire à 6 voix. Et là, les choses ont commencé à se mettre en place. Et aussi, quelque chose qui était pour moi intéressant dans cette pièce, c'est que d'habitude, dans ce genre de travail, j'essaye un peu de faire comme ça s'est réellement passé comme ça. Tu coupes, tu montes, tu vas remettre du bruit de fond, tu recrées une réalité. Et là, j'avais envie d'être, de beaucoup plus montrer la tuyauterie. Tu vois, de faire des coupes très raides, de superposer ou de décaler des voix. Au fond, avoir quelque chose qui ressemblerait plus à presque à des plans de cinéma que à des plans radio.
C'était assez brutal, ce changement qu'il y a eu tout à coup. Quand on est parti en Angleterre, quoi. J'avais 7-8 ans.
On était déjà dans deux mondes.
Et où il y avait déjà une première...
Mais j'étais jeune, moi, en fait. Même à 16 ans.
Déchirure, quoi.
Wow.
On a annoncé qu'on partait à l'étranger.
17 ans, on est jeune, en fait.
Et...
On comprend pas, enfin, on sait, mais... Mais en même temps, on vit ce qu'on a à vivre, nous, dans nos études.
Je pense que c'est là aussi que...
On ne prend pas conscience de ce qui se passe vraiment, de la gravité.
Que je...
On sait que notre frère va mal. On sent les engueulades entre les parents.
Ou avec ma sœur...
Enfin, il y a beaucoup de tensions, mais on ne réalise pas. On réalise pas ce que ça peut être.
Quelque chose de fort qui se passait, quoi, ou... Et on avait les deux peurs et on s'est...
Et moi, j'ai les souvenirs de lui où il allait très mal, où moi, j'étais en études.
Je pense que...
Où j'essayais aussi de me protéger par rapport à ce que je faisais.
Que c'est ça qui a fait qu'on a cette relation aujourd'hui, encore.
Et c'était assez difficile, en fait.
Souvenir 1. Par la fenêtre. Une femme étreint un homme qui sort d'une voiture. Elle le serre fort, mais elle l'embrasse sur les deux joues. Son frère, je me suis dit. Et puis non, c'est la mode maintenant d'être démonstratif avec ses amis. Mais j'ai pensé, son frère, avec. Je suppose que je voulais décrire un sentiment, mais je me suis arrêtée là.
Ça va faire 3 ans au mois de juin. Non, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Et apparemment, il fait du chemin, là.
Donc, bon, ma sœur, elle a très bien vu parce que je traînais avec un garçon qui a une âme de toxico, on peut dire, déjà depuis le plus jeune âge. Au 7e, il prenait des médicaments, donc moi, je me suis un peu associée à lui parce que, bon, forcément, ça m'intéressait plus de le voir lui que d'autres personnes. Quoi. Puis, on était toujours ensemble, les deux, à se péter la tête. Et puis, elle commençait par fouiller mes affaires, etc. Puis, une fois, elle est tombée sur de l'héroïne, en fait, un mini-grip, quoi. Puis, en fait, ma sœur, elle a toujours fait comme ça. Elle m'en a jamais parlé en face, mais elle a toujours dit à mes parents derrière, quoi. Donc, une fois, elle a trouvé ce mini-grip, elle allait vers mon père. Mon père, il est venu vers moi et il a fait un truc incroyable. Hein. Moi, j'ai cette réaction, mais c'est là où on voit comme ils sont impuissants face à ce problème. Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit, c'était de l'héroïne. Et puis, il m'a demandé ce que j'en faisais, quoi. Puis, je lui ai dit, ben, écoute, j'en consomme, mais là, j'en ai pour la dealer parce que j'ai pas d'argent. Puis j'avais peur qu'il la mette aux toilettes, parce que moi, je l'aurais fait, quoi. Enfin, je pense que j'aurais été confrontée à ce problème, mon réflexe aurait été de jeter la drogue, quoi. Puis j'ai supplié mon père de me rendre le mini-grip. Je fais, rends-moi ces 5 grammes, j'en ai besoin, enfin, vraiment, quoi. Et puis il me les a rendus, quoi. Et il m'a fait jurer de pas consommer dessus. Puis j'étais là, mais je te jure, non, c'est pour vendre et tout, j'ai pas d'argent. Puis il me les a rendus, quoi. J'ai dit, incroyable, quoi. J'étais là, j'y croyais pas. Enfin, bref, le pauvre. À partir de là, après, bon, bah, avec ma sœur, elle vivait sa vie de son côté, moi j'étais dans mes histoires, donc c'est à partir de 15-16 ans qu'on s'est un peu complètement séparés, quoi. Puis moi, bon, j'avais rien. Après, j'ai trouvé un copain qui était en Valais, qui consommait de l'héroïne, donc j'étais la semaine soit ici, soit au boulot, soit dans mon apprentissage, et puis le week-end, je partais dès que possible, j'avais une bonne excuse pour quitter la maison, quoi. Donc je voyais plus personne, en fait, à part... Ouais, le week-end, je voyais plus mes amis, je voyais plus ma sœur, plus ma famille, puis j'étais fourrée là-bas avec la drogue, quoi. Ça m'allait très bien.
Puis j'ai pas commencé parce qu'il m'est arrivé une tuile sur la gueule, j'ai commencé par curiosité, donc... Les tuiles, elles sont arrivées pendant et ça les a amplifiées, ça a amplifié tout le phénomène, mais ça a pas... Je sais pas... De plus, au niveau familial, grosso modo, hein, j'ai plus que mon père et ma sœur, donc faudrait quand même que j'en prenne soin.
Il y a un événement aussi qui m'a marqué. C'est la première fois que je suis allée le visiter en prison à Chandelon. J'avais 16 ans. Et ouais, c'était dur, quoi. C'était dur parce que... Parce qu'on comprend pas, en fait, on comprend pas pourquoi il est là. Et on en veut au monde entier, on en veut aux gardiens de prison. Je me souviens, j'avais un regard d'adolescente rempli d'haine, quoi, face à ces gens, cette administration, ces gens qui ouvraient, fermaient des portes. Je comprenais pas. J'en voulais pas à mon frère, j'en voulais aux autres. Oui, je savais qu'il avait fait des conneries pour être là, mais je trouvais trop dur, quoi. Je trouvais trop dur de le voir enfermé, de devoir, en tant que petite sœur, de devoir aller à Chandelon. C'est un monde que personne ne peut deviner, je dirais. Puis c'est pas quelque chose que je pouvais partager, moi. C'est quelque chose que j'ai jamais partagé avec mes amis. C'est des choses qu'on vit vraiment à l'intérieur de la famille et c'est quelque chose qu'on porte, quoi, mais qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas dire que son frère est né en prison, qu'on est allé à Chandelon. Ouais.
Non, on ne s'est pas parlé. Non, on ne s'est pas beaucoup parlé. Non. 18, 20, 21, j'arrive plus à très bien situer, mais on est dans cette tranche. Hein, ouais. Alors, on a
peu communiqué avec... on a peu communiqué... Oui, on s'est aimé, on a partagé, mais on a peu communiqué de nos choses de jeune femme.
Mais je crois que moi, j'ai réalisé ce qu'il vivait que très tard, que beaucoup plus tard, quand moi, j'ai eu l'âge qu'il a eu. C'est-à-dire quand moi, j'ai eu 21, 23 ans, et encore, je crois que j'ai commencé à réfléchir à ça à 27 ans, en me disant, mais oui, c'est... De se retrouver en prison à 21, à 23 ans, c'est dur. C'était pas des choses où on parlait... En tout cas, mes parents ne me parlaient pas de la toxicomanie de mon frère. On parlait qu'il était en prison, qu'on allait le voir, qu'on allait le soutenir. Mais c'était pas, en tout cas, quelque chose qu'on pouvait nommer comme ça. Je pense que mon père, en tout cas, c'était très, très dur pour lui. Je pense que ma mère était beaucoup plus combative que mon père. Mon père, c'était plus un tabou ou quelque chose qui allait passer avec la jeunesse. Je crois qu'il n'a jamais pris la mesure de la souffrance de mon frère. Jamais. Je sais que mon frère a énormément cherché mon père et il ne l'a jamais trouvé.
Des témoignages pour parler de la toxicomanie à travers des regards de frères et de sœurs, Martine Galland, recueillis par Yves Mélan et Magali Feller.
Voilà, alors c'est un éclairage familial. Je trouve que c'est fort parce qu'on découvre ce qui se vit autour de ceux qu'on croise parfois dans la rue avec effroi, il faut le dire, et de savoir ce qui se joue dans la famille, ce qui peut être ressenti autour. Il y a un peu de tout cela qui est dit dans cette pièce sonore.
Dans cette pièce sonore, oui, on le redit, c'est un exercice non pas radiophonique au tout départ qui a servi de base à cette heure de Smala, mais c'est une pièce thématique de succession de témoignages réalisée donc par Yves Mélan. On va en retrouver une dernière partie juste après Tarmac. À tout de suite.
Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins, car pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose?
Once I passed through a populous city, imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions. Yet now, of all that city, I remember only a woman I casually met there, who detained me for love of me. Day by day and night by night, we were together. All else has long been forgotten by me.
Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? sur quelle idée on se repose. Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose?
Dernière partie donc de ce travail d'Yves Mélan et de Magali Feller, donc rencontre avec différentes personnes protagonistes autour de l'histoire de la toxicomanie dans la famille. On pense souvent, c'est vrai Martine Galland, quand on parle de toxicomanie aux parents, et là le regard des frères et des sœurs a été moins souvent abordé. Hein.
Voilà, et Magali Feller s'est confrontée à sa propre histoire puisque son frère est mort d'overdose il y a une dizaine d'années. Elle a donc donné la parole aux frères et aux sœurs touchés comme elle, mais aussi à ceux qui ont plongé.
Pendant qu'on faisait les interviews, c'est vrai que le tout premier interview qu'on a fait, c'était une sœur qui avait eu la même histoire que moi, c'est-à-dire que son frère était décédé. Ce qui m'est apparu après cette rencontre, c'est vraiment que dans notre famille, on avait été dans le déni de la toxicomanie de mon frère, et c'est un mot que j'utilisais déjà avant, mais qu'il avait une autre consonance là, après cette rencontre. Et j'ai commencé à écrire, noter ces choses, et je m'étais dit une chose que je pourrais leur donner, quelque part en échange aussi de leur témoignage, c'est qu'est-ce que j'ai appris à travers eux. Et puis j'ai commencé à écrire deux, trois choses et j'ai dit ça à une des personnes qu'on a rencontrées. Et après, Yves me dit « mais ce serait pas mal d'intégrer ça dans la pièce ». Au début, moi, je l'avais entendu comme étant une manière de conclure la pièce. Et pour finir, comme j'avais écrit toutes des petites choses très courtes, quand je lui ai montré ça et puis qu'on a enregistré une première fois, finalement, c'est des choses qui sont venues ponctuer la pièce.
Parce que tu étais en train d'écrire ce qui se passait pour toi pendant les entretiens. En fait, il y avait un mouvement qui se faisait avec Magali dans son histoire. Et moi, j'étais dans mes compositions et mes montages. Et ce qui me manquait, c'était le véritable lien avec Magali, parce qu'on était parti de son histoire. Donc j'avais envie de pouvoir ponctuer de quelque je sais pas quoi de Magali. Et quand elle m'a dit, bah écoute, j'ai écrit ça, ça et ça, j'ai proposé qu'on les enregistre et puis qu'après je les utilise. Et c'est très bien, ça tombe très bien parce que vraiment, on est dans ce lien de Magali, de son histoire. Et donc, on va comme ça de l'extérieur à l'intérieur.
Moi, en fait, j'aime pas parler de ça. Ou c'est difficile, ou j'en sais rien. Et puis, c'est difficile aussi avec mes parents. Enfin, j'aime pas parler de mon frère avec mes parents. Et finalement, voilà, moi, j'ai aimé m'exprimer de cette manière-là. Mais c'était parce que, voilà, il y avait 6 personnes qui parlaient, qui allaient dire des choses différentes sur lesquelles j'avais pas de prise, je peux pas contrôler ce qu'ils disent. Et puis Yves, qui lui arrive complètement extérieur à cette problématique, va faire un montage qui est... Enfin, disons qu'il y a tout un mélange qui fait que un sens autre peut ressortir. Et ça, c'était très important pour moi, quoi.
Cette pièce sonore qui dure un tout petit peu plus d'une heure dans sa totalité est pour vous aujourd'hui, Magali Feller, comme si quelque chose pouvait être à l'extérieur, raconté, montré, qui pouvait sortir de vous de cette manière?
Bon, moi, je ne me pose pas 36 questions. Hein. Je sais pas, la vie m'a donné l'opportunité de faire ça. Je pense que j'avais besoin d'en parler puisque j'en parle pas spécialement... autour de moi. Et là où j'étais très contente, c'était qu'il y ait deux personnes qu'on a interviewées qui ont beaucoup aimé. Voilà, je me disais, bon, ben, c'est juste pour moi, c'est juste pour eux. Bon, ça peut aussi être juste pour d'autres. Et voilà, c'est une manière de communiquer quelque chose de cette manière-là. Voilà, ça me convient. Après, savoir qu'est-ce que ça va être? Enfin, je sais pas.
Mais c'est ce que des personnes m'ont dit. C'était, par exemple, nous, on n'a pas ces problèmes de toxicomanie comme ça, mais c'est une pièce, il faut que je la fasse écouter à ma sœur, il faut que je la fasse écouter à mon frère ou à mes cousins, parce qu'il y a tellement de choses qui me remontent en écoutant ça, de notre famille.
Moi, j'ai un problème de dépendance qui est lié à la nourriture. Donc... je suis ce qu'on appelle une mangeuse compulsive, alors on ne va pas déblatérer là-dessus, mais c'est quand même un problème de dépendance, et quelque part, les compulsions qu'il y a dans l'alimentation sont rigoureusement les mêmes que celles qui sont rattachées à la toxicomanie. Donc j'ai évolué dans un standard tout à fait conforme, formidable. Professionnellement, tout va bien. À partir de là, peut-être que c'est aussi les rencontres que j'ai faites dans ma vie, mes amours, sont pas liées forcément à Caroline, mais à ma propre dépendance. Parce que finalement, tout canaliser sur Caroline par rapport à cette problématique, c'est aussi être dans le déni de ses propres problèmes. Ce que je veux dire par là, tant qu'on s'occupe entre guillemets de quelqu'un, souvent on s'oublie. Le fait de s'oublier, c'est bien, mais c'est pas non plus ça. Alors tout à coup, vous avez le problème dans la famille du frère, de la sœur ou du père ou peu importe. Donc on canalise toute son énergie, puis en même temps, c'est parfait. On s'occupe pas de soi, mais on s'occupe pas non plus de ses problèmes. Et alors, on focalise tout sur l'autre.
Ce qui est même d'ailleurs très douloureux pour eux, parce qu'ils en étouffent qu'on soit complètement... C'est une souffrance. Enfin, je répète pour Caroline, mais j'aime pas tellement généraliser, mais ça, c'est quand même vrai. Hein. Et je pense pas que c'est ce qu'ils cherchent. Je pense pas que, dans le fond, c'est réellement ce qu'ils cherchent, quoi.
Ouais. C'est pas évident, quoi. Parce que c'est toujours le sujet dont on parle, quoi. Finalement, on parle d'autre chose, mais c'est toujours la drogue qui revient, etc., quoi. Finalement, la drogue, c'est une conséquence, quoi. Si on prend pas de la drogue juste comme ça, quoi, c'est parce qu'on est malheureux, qu'on a envie de c'est pour éviter de se suicider, si on prend de la drogue, c'est clair et net, quoi. C'est un moyen de survivre à un moment donné dans sa vie, quoi. Après, c'est juste de l'automédication, point barre, quoi. L'autre jour, on m'a appelé parce que mon père, il va pas bien, qu'il fait une dépression et tout, comme quoi, fait que j'arrête vraiment mes conneries, parce que là... Je commençais à foutre tout le monde dans la merde. Je disais, ah non, mais c'est gentil, quoi, de me dire ça, mais j'ai peut-être une part de responsabilité, mais alors tout le monde en a la sienne, quoi. Donc c'est aussi. C'est très facile de désigner la personne du doigt comme ça, puis ça arrange tout le monde finalement. Comme ça, tout le monde se croit mieux que l'autre, et puis que le problème, il est là, nous, ça va, quoi. Moi je suis plus d'accord. J'aurais fait comme ça, et puis maintenant, on en parle, quoi.
Je suis pas sûr d'être plus heureux pour autant, donc qu'est-ce que ça m'apporte ?
Il manque quelque chose, hein. J'ai beau être amoureuse, avoir des copains, faire des activités, je sais pas, il faut que je trouve un truc.
C'est le problème dès que t'arrêtes la cam, hein, c'est qu'à un moment, tu te dis la cam, ça va pas, c'est la merde.
Une raison de vivre, quoi, quelque chose qui m'importe.
Arrêtez, ça va pas, c'est la merde.
Non, quoi.
Bon, qu'est-ce que je fais ?
Enfin, moi, je vois pas, moi, j'ai besoin d'un truc que je fais en étant un peu passionné quand même, parce que.
Bon, d'une manière générale, moi, le problème que j'ai, c'est que si.
Ah, la drogue, moi, c'était super, quoi.
J'ai l'impression d'être assez blasé de pas mal de choses, ça c'est handicapant.
Je me lève le matin pour aller bosser, je mange à midi, je reviens le soir.
Si j'ai pas un intérêt à ce que je fais, quoi que ce soit, à une personne que je fréquente.
Non, ça n'a pas de sens, quoi. Je m'emmerde, quoi. Donc,
si j'ai pas de satisfaction, ça me.
Moi non, il me manque quelque chose, quoi.
Pas du tout. Alors c'est quand même assez compliqué d'avoir des satisfactions.
Il faudrait que je commence à me poser la question, effectivement.
Du réveil au coucher, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est pas...
Je sais pas encore. Quoi.
Bah, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le truc.
Ouais. Entre le moment où on a envie d'arrêter, qui dure 10 minutes, et celui où on arrête, bah, des fois, ça prend 20 ans. Pour elle, ça a pris quelques années aussi, quoi. Ouais.
Je pense que c'est plus des regards, si je dois me souvenir de. C'est des moments, des regards, une complicité ou une fois une présence. Mais c'était difficile d'être heureux. Il faut des mois pour pouvoir rentrer dans un centre parce qu'il y a très peu de place. Voilà, même quand on souhaite et on fait la démarche d'eux, il n'y a pas forcément une place. Donc lui, il avait vécu toute une année vraiment difficile et il avait réussi à avoir cette place. Et pendant le premier mois, en fait, il ne peut pas avoir de contact avec la famille. Et puis là, ils avaient fait une dérogation parce qu'il y avait le mariage de ma sœur. Et puis il est venu, puis il était magnifique. Je ne l'ai jamais vu aussi beau. Il avait acheté un costume de marque, je crois. Et je me souviens beaucoup de lui, de son sourire en coin. Et puis bon, après, le... je sais qu'on a plaisanté. C'était un moment de fête, quoi. Et en fait, après, il a dû partir. Il y avait un éducateur qui est venu et puis et il a dit non, vaut mieux que je rentre parce que c'est déjà bien. Ce que j'ai vécu. Puis on avait toute la confiance de le revoir, quoi. Et voilà. Il est mort 2 semaines après, quoi. 2 semaines après le mariage. C'était la dernière fois qu'on l'a vu.
J'espère que je vais reconnaître par ici, parce que enfin, moi, je suis venue à pied.
Histoire 2.
Je tournerai à...
Dans le grenier.
On
travaillait dans le grenier d'une maison. Je me dis encore que c'est quand même le meilleur truc que j'ai pu faire pour me sauver la vie, de faire un apprentissage de monteuse électricienne après la mort de mon frère. J'étais entourée d'hommes, c'était bien. J'ai pas noté la suite. La suite, je vous la raconte maintenant. Je posais des tubes à plat ventre dans ce grenier avec un collègue qui était curieux et qui me posait plein de questions. Et c'est venu que j'ai dit que mon frère était mort. Si je me souviens de ce moment-là, c'est parce que c'est l'époque où j'arrivais pas à dire « mort ». J'arrivais pas à faire un « o » avec ma bouche. J'arrivais à dire le mot, mais ma bouche se déformait.
Je connais pas du tout ce chemin. Alors moi, je disais à Magali, on a chacun notre manière d'appréhender enfin, la mort, quoi, l'absence de l'autre. Et moi, j'ai des photos de mon frère, mais quand il était enfant. Parce que j'ai aucune photo de lui quand il est mort à 33 ans, parce que c'est trop douloureux en fait de voir son image. Donc j'ai gardé qu'une image de son enfance, de toute la promesse qu'il y avait dans son... Pour moi, l'enfance, c'est la promesse de la vie, puis c'est, je pense, le moment où il a été heureux. Donc j'ai gardé... J'ai des images de lui enfant. Mais je pense qu'à jamais nos vies vont être liées. D'autant plus que la mort, quand elle survient comme ça, soudainement, je ne sais pas comment expliquer. Je crois que sa mort, elle n'a jamais marqué autant la vie, paradoxalement. Je crois que je n'ai jamais autant apprécié la vie qu'à travers sa mort. Parce que l'autre, quand il n'est plus là, il n'y a plus de retour. Et puis à un moment donné, moi je crois qu'avec sa mort, j'ai appris à risquer ma vie, à oser vivre ma vie, à oser être heureuse. Il y a une autre chose aussi que je pense que c'est très important, enfin, peut-être qu'on peut témoigner. Si je n'avais pas vécu peut-être la toxicomanie de mon frère, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Sûrement. Parce que tu... Ouais, je ne sais pas comment expliquer... il souffre, tu peux plus porter de jugement sur les autres comme ça. Tu peux plus. T'es obligé d'accepter qu'il y a des gens qui sont plus faibles, plus fragiles. Tu es obligé d'accepter qu'il y a d'autres parcours dans une vie. Et puis eux, ils le crient avec leur voix et leur corps et leur mal-être.
Elle a arrêté. Elle est vivante. Elle est là. Ouais. C'est énorme. Ça c'est quelque chose de grand, de beau, ouais. Ça c'est, ouais. Tout va pas très bien, et puis par pudeur pour elle, s'il y a des gens qui entendent, je dirais pas, parce qu'elle a quand même, il y a quelques séquelles, et elle doit se battre avec, mais elle est là.
Puis en fait j'ai perdu une protection, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait. Longtemps, j'ai cru que c'était nous, les petites sœurs, donc j'ai une jumelle, qui protégions notre frère aîné qui n'allait pas bien. Et en fait, sa mort m'a démontré le contraire, c'est qu'il nous a beaucoup protégés. Mais je n'en étais pas consciente.
Je ramène ça à moi. Mais c'est vrai que tout cet amour aussi que moi j'ai pour elle en tant que petite sœur, là c'est vrai que ouais non là c'est même moi j'ai plein d'angoisse franchement ouais. Ah. Quand elle fait ses examens tout ça, alors je fais un peu la maline mais
il n'a pas encore réussi à lui dire qu'il n'irait pas habiter chez elle. Je sais même pas s'il y arrivera mais je pense que là ils ont encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est ce que j'ai dit, mais maintenant, il se débrouille.
C'est assez difficile dès que tu arrêtes de tout reconstruire. Hein. Je pense que c'est quand même assez...
Ah ok, alors soit on se tue tout de suite, ou bien soit on essaie de croire en la vie, puis on arrête ces conneries, quoi.
Même dans des très difficiles, et...
Il y a de malade tous les matins, de gueuler, de dégueuler, de puer, de trembler, de ne pas pouvoir manger...
Franchement, je pense que c'est pas un truc que j'aime bien faire deux fois, quoi. Parce que...
Bah, à un moment donné, il n'y a plus de notion de plaisir, c'est une notion de souffrance, quoi. C'est tellement dur, c'est tellement inhumain que...
Ouais, non, c'est trash. C'est trash. C'est pas rigolo.
La lune de miel avec le produit est très courte, quoi. Elle est très courte. Mais c'est quand même quelque chose qui nous reste dans la tête.
C'est une chose extrêmement importante, quoi qu'on crée, de savoir comment on va terminer. Et en l'occurrence, quelle sera la chute? Les mots de la fin peuvent laisser une impression très différente. Comment est-ce que vous avez choisi de finir cette pièce?
Alors, bon, il y a un déroulement dans la pièce et on va quand même vers la mort. Et après la mort, il y a l'espoir, il y a la naissance de cet enfant, etc. Et je pouvais finir la pièce sur une note pleine de joie, d'espérance, et ce qui est le cas d'ailleurs.
Mais... Parce que certaines personnes disent que le drame de leur frère ou de leur sœur les a finalement enrichis dans leur vie à eux.
Oui, les a fait grandir. Oui. C'est-à-dire qu'après, ce qui se dit souvent, c'est qu'on ne peut plus voir les autres de la même manière. On est obligé de constater qu'il y a beaucoup de chemin dans une vie, qu'il y a beaucoup de façons d'aborder sa vie, de la conduire, et qu'on ne peut pas tout le temps dire « c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement ». Et que pour les toxicomanes, ou qui vivent ce problème de toxicomanie, mais de dépendance ou d'addiction, quelle qu'elle soit, on peut être très dépendant à un conjoint et que ça pose énormément de problèmes, ou que ça n'en pose pas. Et au fond, ce problème de dépendance, il existe toujours. Et les personnes qui sortent de cette problématique, ça leur reste toujours dans la tête. Parce que la drogue, c'est bon. Il y a un moment, c'est très bon. Le début, c'est très, très bon. Et c'est très insidieux de voir de quelle manière de très bon, ça vire dans l'horreur. Et là, c'est déjà trop tard parce qu'il y a, comme ils disent, un système d'automédication. De prendre telle drogue pour pouvoir supporter l'horreur qu'apporte la drogue. Enfin, c'est complexe.
Donc vous avez choisi de terminer sur cette idée qu'une dépendance, même quand on en est sorti, reste en latence.
Oui, oui. Parce que ce qu'ils ont dans la tête, ce n'est pas les moments d'horreur qui peuvent durer 15 ans, 20 ans. Mais ce qu'ils ont toujours dans la tête, c'est les premiers jours, les premières semaines. C'est comme une histoire d'amour. Tu vois, tu es dans un état totalement second et c'est bon, c'est magnifiquement bon. On s'y laisse prendre.
Tu as essayé de la drogue, hein?
J'ai essayé l'amour.
«
Yves Mélan et Magali Feller qui sont à l'origine donc de ces témoignages recueillis pour une pièce sonore intitulée Jardin public, jardin privé.
Qui a été produite dans le cadre de la manifestation Les terrasses du Troc à Genève. Alors ça c'est terminé, mais Internet fait le relais si vous souhaitez écouter l'intégralité qui dure un peu plus d'une heure. Les sites sont en lien sur la page de l'ASMALA.
rsr.ch sur la page de l'ASMALA et on en profite au passage pour remercier évidemment tous les témoins qui ont offert leur parole sur un sujet aussi difficile.
Écoutez. Mamma mia.
L'ASMALA. C'est Laurent Pavia qui a choisi les disques comme chaque semaine. Jean-Philippe Svalen qui se chargeait de la réalisation sonore toute particulière de ce matin. Stéphanie Gauthier reste bien entendu notre lien via le 021 318 1598, numéro du répondeur que je vous redonne, ou sur le site internet. On se retrouvera la semaine prochaine, un spécial Russie entre 10h et 11h. D'ici là, portez-vous bien sur la première, il est déjà 11h.
La Smala avec les hypermarchés Casino.